A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Flavien Berger. Ça fait un bon bout de temps que Flavien s'affirme dans le paysage musical francophone, car son premier album, Léviathan, date de 2015. J'ai énormément entendu parler de son album Contretemps lorsqu'il est paru en 2018, et il semble avoir pris pas mal d'importance dans le catalogue musical de beaucoup de mes proches. Cette année, il a sorti son dernier album en date, son sixième pour être précise, intitulé « Dans 100 ans ». D'ailleurs, Flavien Berger est, à l'heure à laquelle je vous parle, en pleine tournée, et c'est en ce beau mois de mai qu'il assure non pas un, mais bien deux Olympia à Paris. Comme je le disais donc, Flavien Berger a sorti en cette année 2023 son album intitulé « Dans 100 ans ». Le premier extrait auquel on avait eu droit en single pré-sorti d'album, c'est le titre « D'ici là », un morceau bleuté aux mélodies mélancoliques.
Fais comme si je te voyais pas. C'est peut-être la dernière fois. Je n'ai jamais vraiment compris ton visage. C'est à toi que je pense à chaque décollage.
Autre extrait de l'album de Flavien Berger, c'est le single Feu Follet, qui répond plus aux teintes électro qu'il sait si bien manier et qui invite davantage à la danse. Comme ça, vous avez les fameuses deux salles, deux ambiances, sauf que bah, Flavien Berger est invité aux deux fêtes, quoi.
C'est le dernier verre, ça passe en un éclair. Les larmes désaltèrent, les flammes de la terre. Le cœur aussi me serre, et si c'est à refaire. Oh oui, je réitère, la fête au cimetière.
Salut Flavien.
Salut, salut.
Ça va?
Ouais, super, je suis bien calé là dans ces canapés.
T'as l'air bien posé, ouais. Flavien, j'ai qu'une question, c'est quelle est ta daube du jour?
Disco laser de Ronny Emmanuel.
Et viens danser le disco. Tu es super. Et j'ai envie de chanter. J'ai besoin de toi, ouvre-moi tes bras. T'es une fille sincère, mon amour est pour toi. Prenons un café crème, passons tous ensemble. Danser toute la nuit, au rythme rétro. Mais tu t'en vas, tu ne m'écoutes.
Comment t'es tombé là-dessus, Flavien? Parce que moi, j'ai cherché naïvement sur Google et je ne suis tombé que donc sur une vidéo oui. De mauvaise qualité oui. Sur YouTube. Et donc, je suis très étonné de ce choix. Donc, je me demande comment t'es tombé dessus déjà.
Alors, je pense que c'est quand j'étais étudiant en prépa d'art, j'avais des copains qui étaient assez geeks d'ordi et tout, et qui on se partageait pas mal justement de la culture, tu vois, des nanars, des mauvais films. Ou des genres, des tu vois, des flops, des musiques un peu des charts et tout ça. Et donc on se partageait un peu des morceaux nuls, mais qu'on se mettait à kiffer. Et dans ces morceaux entre guillemets nuls, hein, parce que je fais des petites guillemets avec mes doigts, il y avait Ronny Emmanuel qui nous a, qui est devenu une espèce un hymne en fait. Enfin entre nous, Disco Laser, c'était genre, c'était hyper important parce qu'en fait ce morceau, c'est ouf que il ait vu le jour. Tout court.
Ouais.
Il y a une espèce d'amateurisme total dans la voix, dans la prod, dans même l'enregistrement. Genre, je pense qu'à un moment, ils se foirent un peu, mais ils ont gardé la prise et tout. Il y a une... Et puis, je sais pas, je pense qu'ils se disaient ça va cartonner. Et donc, ce morceau, il y a un peu comme Nanarland pour les films. Il y a un site internet qui s'appelle Bide et Musique. qui au début se moquait un peu des morceaux de musique un peu nuls et qui est devenu en fait une espèce d'encyclopédie de morceaux rares avec les informations, les crédits et tout ça. Et donc Ronnie Emmanuel, il est, je pense qu'on peut retrouver là-dessus, mais voilà, donc en fait c'est au début un partage des délires de post-adolescents, de morceaux un peu nazes, et puis finalement ce morceau il est resté, et je me rends compte que mine de rien, la mélancolie qui s'en dégage, la mélancolie joyeuse, je pense que ça m'a vachement marqué.
D'accord, ok. Effectivement, ce que tu disais, donc moi quand j'ai fait ma petite recherche, parce que donc je ne connaissais pas le morceau, je suis juste tombée sur Discogs qui disait que voilà, c'est un morceau qui date des années, enfin tout début 80, et qu'il est belge, a priori.
Ah, wow.
Voilà, c'est tout ce que je sais de ce morceau, donc j'avais hâte que tu m'en dises effectivement un petit peu plus. Alors donc tu l'as choisi comme daube, certes pour en faire un hymne, mais donc la raison pour laquelle tu supposes que c'est une daube, donc c'est notamment ce que tu citais tout à l'heure.
Pourquoi je me permets de le placer dans la catégorie daube, c'est que ça n'a pas les moyens de son ambition.
Ouais.
Donc en fait, ça se veut être un morceau un peu cool début 80. Il y a tout qui va et il n'y a rien qui va en fait. Notamment, en fait, le truc principal, c'est quand même le choix de chant, la manière que cette personne a de chanter, qui est hyper étonnante parce que pas du tout au bon endroit pour lui. Tu sens que dès quelques notes, il n'y arrive pas. C'est un peu un Christophe, mais qui n'a pas réussi à prendre le pli sur sa fragilité, tu vois.
C'est très vrai. Tu l'as bien dit, effectivement. C'est vrai qu'il y a une sorte de Christophe avorté, quoi. Parce que, pareil, quand j'ai fait ma recherche, là où je l'ai trouvé sur Internet, ailleurs que sur cette vieille vidéo YouTube, c'est sur un site qui s'appelle Top Daube.
Ah bah voilà, tu vois, c'est ouf.
Où ça renseigne plein de titres alors que je ne connais absolument pas, tous plus obscurs les uns que les autres, où vraiment c'est que des projets de ce genre a priori, qui bah donc effectivement n'ont pas percé. Et donc en parlant de ça, justement, c'est étonnant parce que la majorité des daubes que défendent les artistes sur ce podcast font partie de la culture pop et mainstream, tu vois, un petit peu. Et la tienne, à mon avis, bah, la plupart de nos auditeurs et auditrices ne la connaissent pas, donc ça m'étonnerait pas de toi que tu sois un dénicheur de perles rares. Je pense que t'as un peu ce profil-là de mec qui connaît pas mal de choses obscures comme ça.
Peut-être, avec Internet, c'est super kiffant de diguer et de digresser, et il y a de l'aléatoire toujours dans la découverte, mais c'est pas comme dans un magasin de disques où c'est vraiment très aléatoire. À l'internet, c'est quand même, plus tu cherches, plus tu trouves, quoi, je crois. Et en effet, je pense que daube, je le définirais comme un rapport aux charts, c'est-à-dire un truc où en effet bid et musique, ça veut dire que ça a bidé, ou top daube, c'est l'inverse de, tu vois, top 50, quoi, ça voudrait dire un truc qui n'a pas marché mais peut-être qu'avait une ambition de marcher. Et là, à ce moment-là, tu peux dire que c'est de la daube, parce que dire de Justin Bieber ou de trucs qui sont dans les numéros 3 ou 4 ou 5 que c'est de la daube, bah il y a une position hyper tu vois jugeante intello de ben tout le monde l'écoute mais c'est pas bien.
D'accord.
Alors que et moi, je pense que je suis assez mal à l'aise avec cette idée-là. Du coup, je dirais que où est-ce que je me place par rapport à la daube, c'est le résultat par rapport à l'ambition, un truc comme ça.
D'accord. Ok, super intéressant, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Souvent, quand j'explique le concept du podcast, etc., l'exemple qui peut ressortir parfois, par exemple, j'en parlais d'ailleurs dans mon dernier épisode, mais ça peut être du Jul, tu vois, et c'est vrai que la question, je trouve, se pose de « bah ouais, mais quelqu'un qui fait quelque chose qui marche aussi bien, est-ce qu'on peut se permettre justement de le considérer comme étant de la daube ?» Alors t'as le droit de pas aimer, effectivement.
Ouais, mais du coup c'est une position, pardon, hyper, tu vois, bourgeoise de dire que Jul c'est de la daube.
Bah je te rejoins, mais effectivement, parce que la plupart des titres qui sont défendus sur ce podcast donc sont mainstream, et donc toi t'as daube puisque c'est l'inverse du mainstream justement, par excellence. Est-ce que ça veut dire que tu considères que ce qui est populaire ne peut pas être de la daube? Et d'ailleurs, est-ce que ce qui n'a pas réussi à sortir de l'ombre, c'est de la daube aussi, du coup?
Ben, à partir du moment où on est dans un jugement, puisque voilà, c'est typiquement ça, moi je réfléchis à d'où je me positionne pour faire mon jugement, et qu'est-ce que ça veut dire de où je me place, tu vois. Et ça voudrait, enfin, en fait, tout est de la daube de quelqu'un. Je veux dire, pour certains amateurs de classique, tel compositeur ou telle compositrice, c'est de la daube par rapport à tel compositeur, telle compositrice. où d'autres gens oseraient jamais dire que, quelle que soit la musique classique, c'est de la dope parce que c'est la musique classique et que c'est, tu vois, c'est important et c'est académique et tout ça. Du coup, moi, voilà, dope, tu vois, il y a un truc un peu de faisandé, un truc qui a tourné tout seul, qui a pas marché, quoi. Mmh. Et donc, ouais, voilà, je dirais, moi, ma justification de dire que quelque chose est de la dope, et quand même d'écouter un truc kiffant, parce que je pourrais vraiment arriver avec des trucs que j'aime pas du tout et je dire ça c'est nul parce que pas ça, pas ça, parce que ça, ce qui pourrait être intéressant, ce que j'aurais pu faire, mais finalement je me dis bah si c'est quand même une émission musicale, autant écouter un truc qui est kiffant, parce que je crois que l'exercice ultime de surf de la vie, c'est kiffer des trucs nuls. Ce que je veux dire, c'est que je fais un parallèle avec Karim Debbache, qui est un journaliste cinéma qui a fait une émission sur jeuxvideo.com à l'époque, qui s'appelait Crost, où il faisait des critiques de jeux de films tirés de jeux vidéo. Et après, ils ont une émission qui s'appelle Chroma, et bref, c'est un critique, chroniqueur cinéma et tout, que j'adore. Et lui, il dit qu'il n'y a pas de mauvais films. Parce qu'en fait, dans les mauvais films, il y a plein de fragments de bons films. Et on peut retrouver dans des bons films plein de fragments de mauvais films. C'est-à-dire qu'en fait, le cinéma, c'est que des espèces de références qui se recitent les unes à la suite des autres et tout ça. Et j'ai l'impression qu'en musique, en fait, c'est ça aussi. Sauf qu'on n'a pas la même manière de consommer la musique que le cinéma. Du coup, c'est super dur de parler longtemps d'un mauvais morceau de musique parce qu'on n'a pas les outils, je dirais, tu vois. En fait, en France, je trouve qu'on manque beaucoup de critiques négatives des projets musicaux. Et on n'a pas le temps, en fait. On n'a que le temps de dire du bien des trucs. Et tant mieux, parce que bah, quand on dit du bien de ton truc, c'est cool, tu vois.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire, genre... Oui.
Et puis, alors, d'un point de vue journalistique que je peux avoir, moi, de mon côté, notamment quand je travaille en rédaction, c'est effectivement la critique négative. Je pense qu'elle peut être effectivement intéressante et puis, voilà, nourrissante tout aussi bien que la critique positive. En revanche, j'ai l'impression qu'à partir du moment où il n'y a pas de critique du tout, bah c'en est une du coup, ça veut dire j'ai pas pris le temps d'en parler parce que j'ai pas spécialement aimé, tu vois. Et alors autant je pense que la critique négative est super importante, mais il faut qu'elle soit bien faite, parce que justement en travaillant en rédaction, j'ai vu passer pas mal de critiques négatives que je trouvais juste cruelles, ouais. Et je me dis bah dans ces cas-là vaut mieux juste pas mettre en avant, ouais, l'œuvre dans ces cas-là, ouais. C'est déjà une prise de position, en fait, de ne pas en parler
à fond. Et je suis d'accord, et en effet c'est à qui tu donnes la place et à quoi tu donnes la place, mais parfois il y a aussi beaucoup de critiques positives sur des choses qui sont faites et qui sont bah ouais, en fait vous parlez pas vraiment de musique, vous parlez d'autres
exactement
choses. Mais tu vois, il y a un journaliste YouTube qui s'appelle Anthony Fantano, qui a un média qui s'appelle The Needle Drop, qui fait ça depuis je sais pas 10 ans, qui est trop fort et qui prend lui le temps de, selon son jugement, juger des trucs bien ou pas bien, not good, good, il donne des notes et tout ça, et c'est carrément son spectre, c'est super subjectif, mais c'est en fonction de ce qui, enfin tu vois, de ce qu'il ambitionne pour les disques et pour les carrières des musiciens, lui, ouais. Il se dit, et moi je suis souvent pas d'accord avec lui, genre il y a des albums, et lui il peut même mal juger des albums qu'il a bien aimés, mais c'est juste dans un spectre un peu chelou qu'est le sien, bon voilà. Mais donc pour en revenir à Ronnie Emmanuel, je pense qu'on peut objectivement dire qu'il y a un truc de raté, quoi.
Bah, je pense que t'as raison, et alors c'est intéressant par rapport à ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure. Donc tu disais que tu l'as découvert dans un contexte de prépa avec tes potes, ouais. Où ce que vous aimiez faire c'était justement vous partager des musiques entre guillemets encore une fois nulles, et tu disais que ce qui était important c'était de kiffer ce qui était encore une fois entre guillemets nul. Donc toi, quand tu as découvert ça, tu t'es mis quand même à l'aimer sincèrement, malgré ce côté un peu risible de la chanson.
Ouais.
On n'était pas sûr de la moquerie gratuite, quoi.
Non, on n'était pas sûr de la moquerie, on était sur presque un truc un peu halluciné de waouh, enfin waouh, comment ils ont accepté de masteriser et de sortir et de se dire yeah, ça va marcher, on fait que des 45 tours, ça va être bat. Et du coup ouais, et puis du coup c'est aussi un lieu, un endroit de complicité.
Oui.
T'arrives et tu dis à ton pote, prenons un café crème, et tu es sympa, alors je veux t'épouser, enfin tu sais, il y a même, en fait c'est presque au-delà de, même voilà, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu au-delà de la production et de l'interprétation, même dans les textes il y a un truc qui va pas, c'est presque un enfant en fait, mais qui a mué. Enfin, je sais pas, tu vois, il est triste parce qu'une fille le regarde pas, mais quand même, il lui propose de l'épouser. Enfin, tu vois, il y a rien qui va.
Littéralement, il fait ça, effectivement. Ouais, ouais. Genre, elle s'en fout complètement et lui, il dit « je voudrais t'épouser ». Mais c'est vrai que c'est touchant. Alors, deux choses sur ce que tu disais, effectivement. C'est une question que je me pose pour de vrai parce que, bon, qu'on soit musicien, mélomane, en tout cas, qu'on soit touché par la musique, donc pas mal de gens a priori, on se retrouve souvent à se lier d'amitié ou en tout cas à créer des connexions avec les gens avec lesquels on se retrouve sur des musiques qu'on estime bonnes. On va être d'accord pour, voilà, on va valider le goût l'un de l'autre et donc en parler, se nourrir de ça, et je pense que c'est très important. Mais est-ce que c'est pas encore plus fort quand on s'accorde sur une musique objectivement, on est d'accord pour dire que c'est pas ouf, mais finalement, on adore quand même.
Ah bah, je pense que ouais, c'est très rassemblant, ouais. Ouais.
Ouais.
Ouais. En effet, être d'accord sur des trucs, ben, une fois que t'es d'accord... Si, tu peux grave alimenter le truc, genre, mais c'est pour ça que c'est génial. Ouais, mais il y a ça aussi, oui. Ouais, mais il y a ça aussi. J'ai l'impression que la friction sur pas vraiment être d'accord, ça permet d'aller chercher à des endroits qui en disent encore plus sur nous-mêmes. Non pas que je sois fan du débat et de la confrontation et tout ça, mais quand quelqu'un a pas aimé un truc et que moi j'ai aimé ou inversement, c'est là que je dis, ah vas-y, bah vas-y, grave, on en parle.
Parlons-en, ouais, tout à fait. Et donc, dans l'exercice de cette interview, j'ai recopié les paroles parce qu'elles sont peu compréhensibles sur cet enregistrement sur lequel j'étais tombée. Donc j'ai pu les étudier. Donc on est effectivement sur un contexte de notre protagoniste, donc Ronnie Emmanuel, qui s'imagine être à une soirée dansante, si on peut encore dire ça. Et il a un crush à cette soirée. A priori, c'est une fille qu'il aime bien depuis un petit bout de temps, mais donc ça a l'air d'être la reine de la soirée. Tout le monde la regarde, tout le monde la convoite, elle danse super bien. Donc lui, il est tout seul dans son coin et il fantasme en disant que justement, il voudrait l'épouser, qu'il la trouve sublime, etc. Est-ce que c'est un sujet qui justement t'a amené en plus à aimer cette chanson, tout simplement ce truc de la soirée disco un peu pourrie pour ce mec qui adule la meuf qui est vraiment en lumière, quoi.
Carrément. Je pense que c'est un sentiment qui m'a traversé, quoi. Ce truc de vouloir être au centre de l'attention de la personne qu'on convoite ou de se sentir seul dans la foule. Enfin, tu vois, ce truc de... Ça résonne grave, en fait, avec un truc assez simple qui est quand tu es laissé pour compte, quoi. Et quand tu te sens être la personne la plus naze et qu'en fait, bah, t'en fais un morceau de musique, quoi. En fait, si, c'est je pense que sincèrement, il y a un truc qui me touche vraiment, tu vois. Je te dis, je peux être ému par la simplicité du truc qui, finalement... tape juste à un endroit alors que ça voulait peut-être taper à d'autres endroits.
Effectivement, c'est vrai qu'il y va pas du tout par quatre chemins. Il dit littéralement ce qu'il pense. T'es trop belle, je t'aime, je voudrais t'épouser. Et effectivement, cette simplicité des paroles, cette naïveté, ça rend le truc encore plus touchant. Non pas que ce soit de même pas un sentiment de pitié qu'on a pour la personne, non. Mais vraiment... c'est courageux de dire les choses à ce point, quoi.
Peut-être, ouais. Ouais, non, pas de pitié, grave. C'est pas ce pauvre Ronnie Emmanuel, mais c'est... ça rend curieux, quoi. Et je pense qu'à l'époque, je sais plus, parce que j'ai pas digué depuis, mais je pense qu'à l'époque, j'avais trouvé un autre morceau de lui.
Je crois qu'il en existe un deuxième.
Comme il y a un 45 tours, il y a forcément une phase B.
Une phase B, ouais.
Et ça aurait pu en dire plus sur le personnage.
D'ailleurs, je me demande quand t'as, parce que tu me disais que tu t'es retourné un peu le cerveau pour trouver un morceau. Bon, ce qui est le cas de tout le monde. Hein. Je sais bien que je demande quelque chose de vraiment compliqué, mais est-ce que tu t'étais dirigé effectivement sur des choses du même ordre ou est-ce que tu avais pensé justement à quelque chose d'un petit peu plus évident
Ah ouais, j'avais pensé à des trucs super mainstream.
Ouais.
Trop mainstream.
Ouais.
Mais encore une fois, du coup, ça veut dire qu'on allait vachement parler d'un truc que je peux écouter, mais dont on parle déjà dans le monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire ?
Je comprends.
Il y a un truc de mise en lumière avec les podcasts où quand on prend le temps un petit peu de discuter de trucs, ben, si en plus cette zone qui est peut-être un peu plus intime, un peu plus approfondie, et remplie de trucs qui sont déjà un peu partout dans le monde, bah, enfin, tu vois, ça leur donne encore plus de place et voilà, c'est...
Et oui, alors en général, quand j'ai affaire à des artistes qui sont vraiment en mal d'inspiration pour choisir la daube qu'ils veulent défendre, je leur dis, parce que comme tu le disais, tout est la daube de quelqu'un. Ouais. Enfin, au bout d'un moment, c'est compliqué d'être objectivement d'accord et de manière universelle sur un titre. Donc moi, ce que je dis en général, c'est bah, pense à un morceau que tu as peut-être passé en soirée avec tes amis ou que tu as passé lors d'un voyage en voiture avec tes potes. Et comme ça, tu lui fais passer le test de si c'est une daube ou pas. Est-ce que tu as déjà essayé de faire passer ce test à Disco Laser de Ronnie Emmanuel?
Ben non, parce que je ne l'ai pas en bon fichier. En effet.
Tu l'aurais fait sinon ?
Grave.
Tu l'aurais passé en soirée ?
Quand je l'avais, parce que j'avais dû le trouver en téléchargement et tout ça, en soirée, ouais, grave. Ah ouais, je pense que je suis un horrible DJ. je suis vraiment un siphon de dance floor. Du coup, grave, Ronnie Emmanuel, j'ai dû le passer. Ouais.
Donc, parce que en fait, on est sur quelque chose qui est vachement ancré dans son époque. Non seulement ça s'appelle Disco Laser, on est en 1980 et donc il s'agit d'une soirée donc que je suppose être une soirée qui diffuse du disco. Donc c'est quelque chose de super ancré dans son époque, qui est une époque qu'on a beaucoup boudé, je trouve, parce que y a, tu sais, tout ce qui est rétro finit par revenir au bout d'un moment. Oui. Ça, c'est quelque chose qui se vérifie. J'ai l'impression que c'est, entre guillemets, enfin le tour du disco, parce que par exemple, t'as Juliette Armanet qui va baser son album pas mal sur ce genre. Mmh. Et puis t'as des trucs de la culture mainstream, je pense notamment à la série à succès Stranger Things qui va reprendre vachement les codes des années 70-80, donc en plein disco pour nous, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi, non seulement du revival des genres en général, mais notamment du disco? Est-ce que c'est une chose que tu attendais ou que tu n'attendais pas, mais que tu es surpris de voir revivre?
Alors moi, quand le disco est revenu avec, là, dans les morceaux RTL et tout ça, genre vraiment prod, ça y est, on remet du disco et tout, j'avais pas l'impression qu'il était parti. Alors peut-être parce que j'en écoute à fond.
D'accord.
Tu vois, quand j'étais ado, il y avait un DJ qui s'appelle Dimitri From Paris qui avait fait des collections de morceaux de disco qu'il avait resélectionnés.
D'accord.
Donc en fait, adolescent, j'écoutais du disco, même enfant, sans doute parce que mes frères et sœurs en écoutaient. Donc j'ai pas vraiment l'impression, même... En fait, genre I Feel Love de Nona Summer, produit par George Moroder, même si c'est un morceau de disco un peu chelou, pour moi c'est genre c'est l'Ave Maria quoi. Enfin, il a toujours été là et il sera toujours là, tu vois. Il n'y a pas eu de truc. Après, le disco dont on parle, c'est un peu le disco un peu bass slap claqué avec. Je crois que c'est là on parle du disco cosmétique parce que en vrai les morceaux ils sont pas tant disco. Si on écoute Clara Luciani ou Juliette Armanet, il y a des rappels du disco, les plaqués d'accords et tout ça. Mais en vrai, c'est plus déjà du disco. Ce qui est disco, c'est leur image. C'est l'image du disco, la combinaison fluo, les rollers, les trucs, les machins. Du coup, musicalement, je peux pas vraiment dire que c'est du disco alors qu'on parle de disco dans la chanson en elle-même. Un peu comme là, d'ailleurs. Ils parlent de disco, mais c'est pas le disco, la musique.
Tout à fait.
Après, les revivals, moi, j'ai toujours aimé les années 80. Genre, j'ai l'impression que dans les années 80, il y a genre 100 décennies au sein de chaque année des années 80. Et ma théorie, c'est que on a créé, parce qu'on on continue à découvrir des trucs des années 80 aujourd'hui. Mmh. Enfin, je continue à découvrir des trucs des années 80 aujourd'hui et j'ai l'impression que ça va être le cas toute ma vie. Et à un moment, c'est pas possible. tu vois, au niveau mathématiquement,
stock,
à un moment, il y a un stock, c'est fini les années 80. Il peut pas y avoir. Et du coup, ma théorie, c'est qu'on a fait un portail spatio-temporel dans les années 80 où il y a des gens qui continuent à balancer de la musique et qui les foutent dans les années 80. Et qui ressortent, et du coup ça s'accumule, tu vois. Voilà, mais pour les revivals et tout, ouais, j'en parlais il y a pas longtemps, c'est intéressant parce que je pense qu'en plus, avec y a une espèce d'entropie qui se forme avec vraiment le postmodernisme où en fait les cycles de 10 ans où les trucs reviennent un peu cool se rétrécissent de plus en plus, où ça y est, maintenant on est presque dans en 2020, on est presque dans une esthétique 2010.
Tout à fait.
Où en fait les trucs ont même plus le temps de repartir et blablabla, ouais. C'est réavalé direct et tout, tu vois, genre là toute l'esthétique chien, robot, pas de def, fisheye, tu vois, post Spice Girls un peu, tu vois, déjà, enfin bon, ben Spice Girls c'est les années 90, mais enfin voilà, du coup ouais, moi j'ai pas trop de mal avec le côté rétro, revival, tout ça.
Ouais, mais t'as raison, j'y avais même pas pensé, mais c'est vrai que t'as raison, sur un peu, j'ai l'impression, ce tabou du disco, c'est-à-dire qu'on en parle vachement, on y fait référence dans des morceaux qui lui rendent hommage, mais il est pas vraiment là, et j'ai l'impression qu'en fait, c'est à moins que tu digues ou que, comme toi, tu sois vraiment un fervent admirateur du genre, quoi, en fait, on en entend quand même vraiment peu du disco, même maintenant, tu vois, finalement. C'est vrai qu'il fait son revival parce qu'on lui rend hommage dans la façon de s'habiller, en en parlant dans ses chansons, en faisant voilà, toutes ces références, c'est toutes ces lumières néons qu'on peut voir justement dans Stranger Things, l'exemple que j'avais donné, etc. Mais le disco en soi, il est encore bien dans le placard, quoi.
Bah ouais, 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 c'est ça. Et puis normal en fait, parce que c'est. En fait, bon, après, je veux pas faire le geek et tout, mais c'est une musique hyper. C'est une musique politique en fait, le disco. Il est lié à un contexte qui est un contexte d'émancipation, tu vois, de minorité sexuelle, de minorité raciale et tout ça, et qui se retrouvait pour transpirer. Et en fait, c'était hyper important et c'était nécessaire pour la santé mentale de plein de gens qui étaient un peu reclus de la. Enfin, marginalisés, quoi. Et du coup, bah voilà, après, c'est comme tout, c'est mainstreamisé et ça devient une évocation, c'est-à-dire que le disco, quand je pense que ces chansons parlent du disco ou veulent être dans un truc disco, ça, c'est juste que ça rappelle aussi un contexte de musique un peu libératrice. Ou voilà, c'est ça. Mais c'est drôle parce que tu parles de Stranger Things et quelqu'un me disait, et qui regarde Akira, il me disait, mais en fait Akira, genre Stranger Things, tout le délire des enfants sur lesquels on fait des expériences et tout, c'est Akira. Et je dis, mais en fait c'est ça, Stranger Things, c'est que ça pompe de partout. Et je pense que dans tous les épisodes et dans toutes les imageries et tout ça, c'est lié à des trucs qui existent déjà. Simplement, nous, en fait, on les connaît pas tous.
Exactement.
Et tous les trucs dont c'est samplé. Et en fait, il y a un truc un peu cool avec ça, la culture pop qui est hyper cannibale, qui se mange elle-même tout le temps. C'est que finalement, tu peux checker et tu peux te dire, ah, mais ça fait référence à ça, je vais aller voir ce truc-là. Donc ça peut aussi, par une espèce de truc inversé, te faire découvrir des trucs
ouais, complètement.
Que tu connaissais pas.
Oui, parce que bah, ça, c'est cet éternel débat qui revient. Hein. Est-ce qu'on découvre encore vraiment des choses ou est-ce qu'on ne fait que consommer du réchauffé, aussi bon soit-il, bien sûr. Mais exactement. D'ailleurs, il y avait eu cette, entre guillemets, polémique, parce que bon, on n'est pas sur du politique non plus en soi, mais de cette dernière saison qui était diffusée avec le fameux morceau de Kate Bush qui était diffusé. Et donc là, t'as tous les boomers du monde qui commencent à taper sur les jeunes personnes qui regardent Stranger Things et qui se mettent à découvrir Kate Bush. Ah oui, mais enfin, c'est normal et puis c'est grave. Super. Enfin, c'est même super. Ils ont de la chance de la découvrir à ce moment-là.
Il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière de découvrir de la musique.
Non, mais c'est vrai que t'as toujours un petit peu ce côté frustration de oui, mais moi je connaissais depuis 20 ans. Bah écoute, je sais pas, félicitations.
Bah ouais, ça c'est un truc. mais oui, ouais, c'est drôle parce que justement dans son podcast, Pomme, elle en parle. Elle dit qu'elle a vraiment découvert. Avec ce revival de Kate Bush et qu'elle s'était jamais vraiment penchée sur ce truc-là. Et c'est trop génial. Moi, ça me fait des frissons quand j'y pense. Je me dis, mais c'est tellement bien pour Kate Bush, en fait. Enfin, tu vois, ça. Ouais, et puis l'épisode, il est ouf.
Oui, bah voilà, pour les amateurs. Oui, c'est vrai que pour Pomme, c'est marrant parce que c'est pareil. Moi, je l'ai vu du coup s'y mettre depuis donc ce retour de Stranger Things. Je me suis dit, mais c'est marrant parce que c'est une artiste qui lui va tellement bien.
Ouais.
Limite, effectivement, je ne comprends pas pourquoi elle ne connaissait pas avant. En soi, c'est pas du tout un souci. Maintenant, elle connaît et elle adore. Mais c'est vrai que je me suis dit, ah, mais ouais, c'est un peu la suite logique des choses.
Ouais.
Juste, je pensais qu'elle l'écoutait déjà parce que on peut pas nier une certaine ressemblance, parfois en tout cas, dans la musique de Pomme avec celle de Kate Bush, quoi. D'où que ça a dû cliquer dans sa tête, effectivement. Et donc tu disais, tu imaginais une faille spatio-temporelle dans laquelle des artistes actuels continuent de mettre du disco
De la musique, pas forcément du disco, ou de la musique des années 80, de la cold wave, de la musique indus, je sais pas, de la folk, de la dark folk, enfin tu vois, je sais pas, mais... Il y a tellement de trucs, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de technologies qui sont arrivées, qui se sont appliquées vraiment dans les années 80. Je veux dire, la musique enregistrée existait depuis plusieurs décennies déjà, mais j'ai l'impression que dans les années 80, avec un peu le digital, avec un peu voilà, les circuits imprimés faits un peu dans le monde entier, et tout ça, on a pu avoir plus de machines, plus de synthés, plus de trucs pour faire de la musique encore plus simplement, à plus grande échelle. On envoie des CD dans la planète entière et tout. On fait encore plus de vinyle plus facilement et tout, les voitures elles embarquent encore plus facilement de la musique et tout ça, et du coup ben, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est vraiment une période un petit peu, tout est une période charnière, mais c'est une période où ça s'accélère vachement, et du coup la proposition musicale elle est encore plus, de musique enregistrée en tout cas, elle est encore plus grande.
Est-ce que tu es un nostalgique d'une époque que tu n'as pas vécue, du coup ? Est-ce que tu aurais voulu être dans les années 80 et faire partie de ces ingénieurs qui font les années 80 ? Ou est-ce que, justement, ça te va très bien de faire une rétrospective dans tes recherches, quoi ?
Bah, qui te dit que j'ai pas ma carte pour le pass spatio-temporel pour
envoyer la musique ? C'est ma question. Est-ce que tu es un ingénieur, Flavien ?
Non, en vrai, je suis pas nostalgique du okay. tout. Je pense que ado, je l'étais et tout. Mais
normal.
En vrai, je le suis pas du tout. Je pense que c'est la... C'est... Je suis carrément fait pour être dans la période dans laquelle on est. Et... Mais j'aime bien diguer, les trucs du passé, quoi.
Ouais, ça se... Je trouve, en tout cas personnellement, que ça s'entend dans ce que tu fais, qui reste quand même quelque chose, effectivement, de très moderne, de ce que tu peux proposer. Mais on voit que t'es un chercheur, quand même, je trouve, dans ta musique. Est-ce que tu te sens... est-ce que pour toi, c'est une évidence, effectivement, que tout ce que tu as pu écouter, etc. Enfin, c'est la question un petit peu bête des influences, mais qui se prête bien, justement, je trouve, dans ton... Dans ton cas particulier, parce que non pas que ta musique sonne forcément comme ce qu'on pouvait faire dans les années 80, mais il y a une petite couleur dans ta musique qui, je trouve, met la puce à l'oreille. Et puis en plus, maintenant, tu viens de m'en parler en long en large, donc ça me paraît assez évident. Tu te sens très directement influencé, effectivement, par ce que tu as aimé et écouté dans le passé.
En musique, en tout cas, de ce que je constate, des musiciens et musiciennes avec lesquels je communique et avec lesquels je travaille. En fait, en musique, il n'y a pas beaucoup de... Je ne peux pas parler des autres pratiques parce que je ne connais pas, mais ce que tu écoutes, d'une manière ou d'une autre, va influencer ce que tu fais. C'est sûr. Tu ne peux pas déroger au truc. Même des trucs que tu n'aimes pas, bah, finalement, ça va influencer en contre-forme des choix que tu vas faire. Donc la musique, il y a plusieurs manières de faire. Je pense, moi, dans mon cas, j'ai tendance à entendre des trucs et essayer de les faire exister dans le présent, quoi. Donc mon exercice, mon travail de musicien, c'est ça, c'est aller au plus proche des trucs, des espèces, c'est pas des intuitions, mais des choses que j'ai entendues dans des oreilles, mais je les ai entendues sans son. Enfin, c'est bizarre, c'est essayer de mettre en son des trucs que j'ai entendus sans son. Je pense qu'il y a plein de manières d'aborder la musique, il y a aussi l'expérimentation, tu pars de trucs et puis ça te fait réagir, et puis t'avais pas un truc à atteindre au début, mais de réaction en chaîne, tu fabriques un truc comme de la sculpture, enfin comme de la taille, tu vois. Et l'influence de la musique que t'écoutes, c'est sûr en fait que ça joue, dans le sens où moi j'écoute de la musique que je fais pas. Par exemple, tu vois...
Super intéressant.
Ouais, ouais.
Exactement, j'allais venir là-dessus.
La musique que j'écoute, c'est pas la musique que je fais. Par exemple, je pense que je suis un peu classé dans une musique pop française, un peu électronique. Voilà. En fait, de la musique pop française, j'en écoute pas. C'est mon outil, c'est mon vecteur, mais ce que j'écoute, c'est pas ça. Et je pense que, du coup, il y a des petites pointes de choses que je peux écouter par-ci, par-là, de choix et tout, qui reviennent, mais c'est vrai que soit j'écoute des trucs, ça dépend après dans la période, on n'écoute pas tout le temps les mêmes trucs, mais j'ai tendance à écouter des choses beaucoup plus obscures, beaucoup moins formelles, beaucoup moins produites, je sais pas.
Ouais, ça, c'est une question que j'aime bien poser, effectivement. D'ailleurs, la première à qui je l'avais posée, c'était notre copine Pomme, et c'est vrai que je m'étais dit... En fait, j'interviewe beaucoup d'artistes. Moi, j'aime beaucoup la musique, celle des artistes que j'interviewe et des choses qui vont bien au-delà. Mais je ne suis pas musicienne, donc j'ai l'impression qu'on est forcément face à une impasse. Enfin, si je m'imaginais musicienne, c'est-à-dire que toute la musique que j'écoute, j'ai peur que si je me mettais à la musique, je finisse par faire, encore une fois, du réchauffé de ce que j'écoute. Peut-être que c'est bien, peut-être que ça l'est pas, ça dépend. Mais ça doit être super compliqué en tant qu'artiste de se défaire de ce qu'on écoute, même si effectivement tu es forcément influencé, comme tu le disais, soit en te construisant contre quelque chose, soit en te construisant avec, mais de produire sans reproduire.
Bah, c'est une histoire d'outils, je pense. Enfin, moi, j'ai sorti de la musique un peu plus de 10 ans après avoir commencé à en faire.
Ouais.
Tu vois, je pense qu'à 15 piges, je commençais à faire de la musique vraiment genre, ok, c'est ma zone, c'est pour moi, je la fais, et j'ai passé des années à trouver comment j'allais la formaliser, la mettre dans la réalité, la mettre dans le présent,
ouais.
La retranscrire, ouais. Et donc j'ai sorti mon premier Scud à 27 ans, Donc c'est hyper tard en fait. Il y a des carrières qui s'arrêtent à 27 ans, tu
vois. Ouais, carrément.
Et
bah la tienne.
Ouais, ou genre tout le club des 27 là qui ont claqué à 27 ans.
Rip in peace.
Ouais. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que comment tu fais pour dire ce que tu as à dire et que l'influence ne soit pas un problème. Moi, dans mon cas, c'était trouver mes outils. C'était trouver comment dire ce que j'ai à dire. Parce qu'après, il faut avoir des trucs à dire. C'est-à-dire que la musique qui ne fait que citer la musique, elle dit rien. Et ça peut être cool aussi, mais moi, dans mon cas, je pense que t'as des choses à raconter, t'as des choses à partager, que ce soit des histoires, des sensations, des états, des visions, des sentiments. Et tout ça, ça fait une espèce de gros paquet qui s'appelle une chanson, quoi. Mmh. Et voilà. Et donc, une fois que ça, tu veux le raconter ou tu veux le retranscrire, justement, c'est une histoire d'outils. Voilà. Moi, j'aime bien avoir pas trop d'outils, mais en même temps, maîtriser ceux que j'utilise à ma manière. C'est comme, en fait, un outil aussi, c'est n'importe qui peut utiliser le même outil d'une manière différente, tu vois. Je fais pas de guitare, mais la guitare, c'est un bon exemple, tu vois.
Ouais, ouais.
Entre un musicien et une autre musicienne ou inversement, tu y joues pas pareil.
Ouais, tout à fait.
Ils n'utilisent pas le même truc.
Oui, il y a 30 000 variantes même, c'est fou. Super intéressant, donc ça c'est plutôt en tant qu'artiste, mais alors, non pas que quand tu sois dans la peau du producteur, tu n'es pas artiste, parce que ouais. Ça joue vachement. Est-ce que tu penses que c'est différent? Parce que quand tu es producteur d'un projet qui n'est pas le tien, il faut aussi que tu te mettes, entre guillemets, au service aussi ouais. de l'artiste avec lequel tu bosses.
Ouais.
Est-ce que tu arrives à t'affranchir non seulement de ce que tu écoutes et de ce que toi tu fais pour être producteur de quelqu'un ou pas?
Je l'ai peu été, j'ai co-réalisé justement le disque de Pomme. Donc là c'est de la co-réal, donc dans le sens où moi je suis là pour accompagner la rando, quoi. Tu vois, je tiens la carte et histoire qu'on se perde pas ou quoi. Et encore une fois, c'est pas moi qui ai décidé du chemin de la rando et oui. Tout ça. Et c'est au cas par cas, je pense que si je devais réitérer l'expérience de co-réalisation ou de production, je pense que mon rôle n'est pas donné de base. J'arrive pas en disant moi je fais ça, 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 et puis on verra. Je pense que le rôle il se positionne en discussion, il se crée en discussion, en échange et en genre bon bah voilà, en partage en fait. De toi, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu sais pas faire, où est-ce que t'as peur, où est-ce que t'as pas peur, où est-ce que moi j'ai peur, où est-ce que moi j'ai des complexes, parce que moi en tant que coproducteur j'ai des complexes aussi. Tu vois, on est dans un studio avec des musiciennes de malades qui rendent des trucs de ouf, et moi genre je dois appuyer sur un bouton et je suis même pas en rythme, et je suis genre oh là, je suis naze. Tu vois, ça arrive aussi d'avoir ces complexes-là, de se dire mais est-ce que je suis légitime à avoir cette position alors que tout le monde maîtrise à donf, tu vois. Et voilà, et donc je pense que, en tout cas, ma vision de ce que c'est que la production ou la réalisation, c'est qu'à chaque projet et à chaque collaboration, ça se redéfinit, ça se réinvente, parce que sinon, c'est de l'abattage, en fait.
Ouais, tout à fait. Ok, alors pour terminer sur cet échange passionnant, tu disais que tu n'étais pas nostalgique, que tu es ouais. bien dans ton époque, ouais. En soi, donc tout va bien, mais si... Si on vivait dans un monde parfait, il y a Ronnie Emmanuel qui vient et qui fait, je sais pas, un cabaret sauvage à Paris. Est-ce que tu vas le voir?
Franchement, si j'ai le time et si on se fait une motive, ouais,
carrément. Ouais, t'as le time. Même t'es invité, tu sais.
Ah bah ouais, j'y vais.
T'y vas? Parce que là, on fait du coup... comment dire, on ressuscite quelque chose qui est un peu mort parce que pas actuel, qui est un peu mort dans l'œuf du coup, parce que comme on disait, ça n'a juste pas marché, quoi. Est-ce que toi, ça ne te dérange pas effectivement de faire revenir l'ancien à l'actuel, notamment avec des anciens groupes qui reviennent et qui ont eu leur notoriété fut un temps, tu vois?
Bah là, c'est différent, c'est que Ronnie Emmanuel, il n'a pas eu sa notoriété.
Donc tu penses que c'est maintenant, potentiellement, il pourrait la faire vivre?
Bah, par curiosité, en fait, ne serait-ce que se retrouver dans une pièce avec plusieurs centaines de personnes qui ont kiffé ce morceau aussi, ça peut être ouf, tu vois.
Ouais.
Tu vois, il y a Jimmy Freeman, qui est un artiste qui a des vidéos sur YouTube. C'est pas très connu, confidentiel. Et il a des super bons morceaux, notamment moi, celui que j'ai découvert, c'est Il n'a pas démérité. Sur son nom, ses origines, il se fond dans les Et j'ai des amis qui, l'été dernier, lui ont... Donc lui, il est prof à Paris, il n'avait jamais vraiment quitté Paris, je crois qu'il n'avait jamais vraiment pris le train et tout. C'est un mec, voilà, dans sa bulle, qui fait ses chansons, qui danse un peu, qui okay. fait des espèces de danse, qui a comme ça des bonnets, lunettes de soleil, ensemble cuir zippé, et qui fait des super belles chansons sur des thèmes assez deep. Mais dans une production, il avait un producteur qui est décédé malheureusement, et du coup, en décédant, bah, ils ont perdu toutes les bandes qui étaient les arrangements et les musiques de Jimmy Freeman. Et du coup, mais bon, tout est sur YouTube.
Okay.
Et donc, ses copains à moi, ils se sont tous rassemblés. Ils adorent Jimmy Freeman d'une manière vraiment pure, c'est-à-dire, c'est un peu une niche internet. Ils l'ont fait venir chez eux, ils l'ont fait une résidence où ils ont repris toutes ces bandes. Et à la fin de la résidence, ils se trouvaient que ça se tombait dans leur festival. C'est un festival un peu privé chez eux, comme ça, dans l'été. Et ils ont fait faire un concert à Jimmy Freeman.
Mais attends, mais c'est incroyable.
C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que tu regardes Jimmy Freeman, ça peut être marrant parce que tu sens que c'est pas à la hauteur de ses ambitions et ça se la joue quand même. Ça pense être autre chose que ce que c'est. Et en fait, se dégage de ça enfin, énormément d'émotions. Et c'est trop beau. Et donc, ils ont fait ce truc-là, et c'était ouf. Et ils s'étaient, tu vois, ils s'étaient donné les moyens, eux, ce groupe d'amis, de accueillir Jimmy Freeman, de lui faire répéter ses morceaux pour faire un premier live. Et Jimmy Freeman, il vivait son rêve en même temps, tu vois.
Ouais, complètement.
Et on était tous, de manière sincère, on n'était pas en train de se dire, on n'était pas du tout dans le frics, tu vois, ce qui est... Un danger énorme, c'est d'aller jusqu'au voyeurisme, de mettre en scène quelque chose qu'on trouve raté et de s'en moquer. Enfin, tu vois, c'était complètement l'inverse. C'était genre, ben, donnons sa chance à ce mec-là qui aime énormément la musique, dont c'est pas le métier dans la vie et qui le fait très bien, qui écrit des textes, voilà, qui a fait une espèce de singularité en fait musicale, tu vois. Et c'était trop beau et on a chanté à tue-tête des morceaux entre personnes qui connaissions, quoi.
Ouais. Ah ouais, donc tu y étais. Oui, parce que comme tu dis, c'est pas le côté frics, mais c'est vraiment bien au contraire, même ce qui est en train de se passer est exceptionnel, parce que ça s'est pas passé et que probablement ça ne se repassera pas,
peut-être
quoi.
Pas, ouais.
Ouais, c'est le YOLO ultime, en fait, là.
C'est le YOLO ultime. C'est ce que j'allais dire, en fait, là. Mais je partais dans mes larmes et tout, mais c'est... On n'a qu'une vie, du coup, uvave, comme disent les Québécois. Une vie à vivre.
Putain, j'ignore.
autant se donner les moyens de réaliser un petit rêve comme ça, quoi.
Trop bien. Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, du coup, en fait.
Ouais, faut que je remette Ronnie Emmanuel sur scène. Oh my god.
Bah, en même temps, je suis sûr que c'est le genre de mission que t'aimerais bien faire, pour le coup.
Bah, après... Ouais, après, faut voir s'il a plus que Disco Laser comme chanson bien. Parce que Jimmy Freeman, pour le coup, il a vraiment plein de chansons trop belles. Et puis les prods sont bien, c'est des prods un peu dance, un peu post-disco justement, en mode synthé. Son producteur, il avait vraiment un synthé de ouf qui était presque un logiciel en fait, où tu lançais un peu le style, les accords, tac, tu lançais, ça faisait des instrus avec des roulements de tambour et tout. Mais voilà, Jimmy Freeman sur YouTube, je vous invite à aller voir ça, c'est sublime.
Trop bien, vous repartez avec plein de culture.
La bamba.
Et puis de la culture, justement, qu'on connaissait pas du tout. Bah, trop bien. Merci, Flavien.
Merci.
À bientôt.
À bientôt, grave.
Bye.
Ciao.